de la résidence alternée. C'est le plus haut aéroport civil au monde. La Chine a inauguré aujourd'hui l'aéroport de Garzi au Tibet. Il est situé à 4411 mètres d'altitude. Il a coûté au total 258 millions de dollars et pourra accueillir à terme 280 000 passagers par an. Des pluies torrentielles continuent de tomber sur le Colorado. Elles ont provoqué des inondations, les pires qu'ait connu cet état de l'Ouest américain. Plus de 1500 maisons sont détruites, des ponts et des routes ont été endommagées. 11 000 personnes ont dû être évacuées. Vous écoutez France Inter, 15h04.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, lundi, à Saint-Our-les-Roches, à 18h30, dans la salle polyvalente. Et demain, mardi, à Thiers, au complexe Espace, également à 18h30. À très bientôt dans le Puy-de-Dôme.
France Inter. La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet. C'est maintenant sur Inter. Bip.
Albert Jacquard est mort. Il a vécu avec le remords d'avoir été dans les années 40, comme il le disait, du côté des salauds. Humaniste et anti-nucléaire convaincu, il a eu l'élégance de transformer un remords en œuvre de charité. Quel génie. Chapeau Albert. Pour sûr que les lèches-bottes du lobby radioactif ne verseront guère de larmes. Albert, tu aurais presque mérité des obsèques nationales, si tu avais su chanter ou taper dans un ballon. Albert, le mécréant, est mort sur son métier à tisser des liens humains. Il ne nous entend pas. Il avait plus que raison, Albert. Il était raisonnable. Patrice de Dame-Marie.
Bonjour Daniel, j'ai appris qu'Albert Jacquard nous avait quittés. Eh bien moi j'ai contre-information, j'ai appris qu'il dînait en ville ce soir. Et avec quelques amis, dont voici la liste, eh bien ce soir notre ami Albert dîne avec Martin Luther King, Gandhi, Balavoine, Chavez, Salvador Allende, l'abbé Pierre, Jean Jaurès, Rosa Luxembourg, Louise Michel et Stéphane Hessel. Et pour amuser la galerie, eh bien notre ami Coluche fera partie du repas. Eh bien bon appétit à vous messieurs.
Bonjour, ici c'est le collectif Stop Uranium de Narbonne. Nous venons d'arrêter un camion chargé de combustible radioactif. On vient de se faire déloger par les flics, mais on a quand même tenu une bonne demi-heure pour dénoncer que le stockage d'uranium et le centre de retraitement de Malvézy à côté de Narbonne, un des plus grands d'Europe, qui est distribué en combustible nucléaire, les centrales nucléaires d'Europe. Nous dédions cette action à Albert Jacquard, qui était un grand anti-nucléaire. Et nous allons continuer l'action car nos camarades est actuellement à la gendarmerie en garde à vue. Eh bien, à l'équipe de la base, j'y suis, tous nos hommages. Ciao.
Bon, ben bonjour, je suis inquiète parce que j'entends pas Daniel Mermet à l'heure habituelle. Donc, j'espère qu'il n'est pas malade. Peut-être a-t-il pris sa retraite, mais il n'en était pas question, je crois, pour l'instant. Voilà, bah, peut-être qu'il recommence que la semaine prochaine. Allez, au revoir et bon courage. Et j'espère bien le retrouver la semaine prochaine. Au revoir.
Vu dans Ce soir ou jamais, le dernier numéro, parmi les images illustrant l'émission, un militant de gauche critiquant le capitalisme et l'attitude de la droite, les yachts de Bolloré sur lesquels se balade Sarkozy, etc., etc. Un militant de l'UMP lui répondant « Mais monsieur, nous, on l'a gagné notre argent. » Vous me direz, là, il n'y a rien de très original, de très intéressant. C'est même d'une banalité confondante. Sauf que, le militant de l'UMP en question, il a 12 ans.
Bonjour, je rentre de la fête de l'UMA ce week-end au Bourget. Et je dois dire que j'ai été scotché par le voyage complètement délirant, hétéroclite et très mélangé. Bref, un peu foire à tout, un peu forum social, un peu foire du livre, enfin bref, très mélangé. Et surtout, moi, ce qui m'a complètement frappé, c'est les débats qui tapent quand même plutôt sur le Grand Capital et les stands Coca-Cola, juste à côté, EADS, Veolia et compagnie. J'avoue que la schizophrénie ambiante était un peu surprenante. Voilà, en tout cas, c'était un voyage hors du commun. C'était Laurence de Ségrifontaine en Suisse normande. Au revoir.
Oui, bonjour. J'appelle pour demander comment ça se fait que la basse justice soit plus diffusée le vendredi après-midi, vu ce qu'on paye comme impôt. Ce serait quand même sympa à nous de nous demander notre avis sur la disparition de l'émission le vendredi après-midi. Ça serait bien. Merci.
Bonjour Daniel, ici Raymond de Montastruc. Je t'appelle au sujet de la déclaration de François Fillon qui invite à ce qu'on cesse enfin de calomnier les nazis et de dire qu'ils sont sectaires. Depuis le temps que ça dure.
Merci pour tous ces messages. Ah, c'était merveilleux. Un grand ciel bleu, 3 millions de visiteurs, le bonheur sur Terre le temps d'un week-end, dans l'unité, dans la fraternité, contre la finance, contre le grand capital, contre le mal et pour le bien. Voilà où nous étions samedi dans ce paradis éphémère du prolétaire qu'est chaque année la fête de l'humanité. Nous étions là écrasés par la foule de nos milliers d'AMG en délire, le poing levé, espérant une dédicace de Charlotte Perry, un sourire d'Anaël Verzo, un bout de t-shirt d'Antoine Chao. Et oui, tous les fidèles de la secte de là-bas étaient en transe samedi, faucille et marteau brandis pour la grand-messe annuelle des partisans du goulag et de la dictature du prolétariat. Eh bien, c'est là que nous allons passer cette heure avec les Fralib, les Sanofi, les Arkema, avec Gilles Cordard qui nous parlera de Jean Jaurès, avec Philippe Dutheil qui nous parlera des grandes bouches et avec Gérard Filoche. C'est jusqu'à 16h ou presque sur France Inter. Mais avant de commencer, quelques lignes d'un certain Daniel Ben Saïd. Quand les lignes stratégiques se brouillent ou s'effacent, il faut en revenir à l'essentiel, ce qui rend inacceptable le monde tel qu'il va et interdit de se résigner à la force aveugle des choses. Voilà, c'est la teuf à l'humain. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Une étude britannique révèle que sous la dictature de Pinochet, comme moyen de torture, entre autres, on diffusait à plein volume aux torturés des chansons de Julio Iglesias. Si jamais Sarko revient au pouvoir, il risque d'utiliser les mêmes méthodes, mais avec Didier Barbelivien. Ayez peur.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les AMG. Pour signaler un repère un petit peu exceptionnel, la vanne au bar Les Loges de la Lenteur, puisque lundi 16 à 20h, nous accueillerons Bernard Friot pour parler du salaire à vie. Donc voilà, bienvenue à tous à Vannes pour ce petit repère de rentrée avec un grand monsieur, Bernard Friot. Voilà, ciao, ciao.
J'ai reçu un message de la femme extraterrestre qui m'a dit qu'elle a beaucoup apprécié le coup de la locomotive qui voulait s'envoler dans les airs tel un avion. Donc elle m'a dit de vous dire, la femme extraterrestre, qu'elle avait beaucoup apprécié quand c'est la locomotive qui a fait le vol planer. Voilà, c'est le message de la femme extraterrestre.
J'ai découvert les souterrains du Vladimir Ilitch.
Le soleil de la Brésil.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, depuis la fête de l'humanité. Flight number 2. La bourgeoisie, travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule. Il est nécessaire de faire croire qu'elle travaille, qu'elle exploite, qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Elle doit faire croire qu'elle est juste et elle-même doit le croire. Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui. Voilà, j'ai voulu qu'on commence aujourd'hui avec cette phrase de Paul Nizan dans son bouquin « Les chiens de garde » qui date de 1932. Hommage pour commencer à Paul Nizan. On est ensemble à la fête de l'humanité. On est là avec nos amis, camarades qui sont en lutte actuellement. On va commencer sur ce front des luttes. Et puis on aura un invité ensuite qui sera Jean Jaurès avec Gilles Candard. Et puis on aura des invités surprises, peut-être Gérard Filoche, s'il a 5 minutes à nous consacrer pour nous expliquer ce qu'est l'ANI, qui intéresse nos amis en lutte actuellement. Voilà, on a du temps devant nous. J'espère que ceux qui sont au fond résisteront sous leur parapluie. Donc on va commencer par des nouvelles du front avec des syndicalistes, on va dire, en lutte, les Fralib, Sanofi et Kémoine. Au cours de nos émissions l'année dernière, on s'est intéressé à ces 3 sujets et donc il est normal d'avoir des nouvelles. Mais je voudrais commencer avec cette petite boîte que vous voyez là. C'est du tilleul. C'est du tilleul de Provence, un produit fabriqué en France par nos amis qui sont là. Et c'est toute une histoire, celle de l'éléphant, d'après nos amis qui sont gentils comme tout. L'éléphant est français. Eux, ils voient un éléphant en France. Et voilà pourquoi ils se battent depuis quand même 3 ans, depuis le 28 septembre 2010. C'est l'anniversaire bientôt. Et ils luttent. Vous êtes combien encore ? 70 ?
On est 77 encore dans la lutte.
77 encore dans la lutte. Et ils luttent contre quoi ? Eh bien, ils luttent contre Unilever, qui a fermé l'usine il y a 3 ans. Unilever, c'est 400 marques. Et un chiffre d'affaires de 51 milliards d'euros. Ouais. Donc, c'est une lutte un petit peu inégale quand même. Alors, qui parle ?
C'est moi.
C'est toi, ouais. Et c'est Olivier Leberquier. Est-ce que tu peux résumer l'affaire, cette histoire en quelques mots, et puis après nous dire où tu en es, où vous en êtes ?
Bonjour, merci de nous avoir invités et de permettre de nous exprimer sur notre lutte. Groupe Unilever, 51,3 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards de bénéfices nets. Donc une entreprise très rentable, où ils font de gros bénéfices. Donc nous, on a très rapidement, dès le départ, déjà lutté contre la fermeture et pour le maintien de l'activité industrielle. Et on a encore 77 à lutter pour ça. Et rapidement, déposer un projet alternatif à la fermeture, qui consiste à remettre en place tout ce qu'a détruit Unilever depuis qu'ils ont acquis le thé de l'éléphant. Parce que le thé de l'éléphant a 120 ans, est né à Marseille, mais Unilever n'est arrivé que dans les années 70, et a acheté l'entreprise dans les années 70, et dès l'instant qu'ils l'ont acheté, ils ont eu ne cesse que de restructurer et de casser tout ce qui avait été construit. C'est-à-dire notamment en ce qui concerne les infusions, et c'est pour ça qu'on a choisi le tilleul pour notre production militante. Quand il y a encore 15 ans en arrière, le groupe Unilever s'approvisionnait dans la région Rhône-Alpes, PACA et sud-est de la France. C'était environ 400 tonnes par an que les producteurs récoltaient et étaient vendues sur le marché français. Depuis qu'Unilever a fait un choix d'acheter le produit soit en Amérique latine ou au fin fond de l'Europe de l'Est, de le faire venir par bateau à Hambourg, une fois que c'est déchargé, ça part par camion, ça fait 600 km pour aller chez un copacker allemand pour être coupé. Une fois que c'est coupé, ça retraverse l'Europe pour aller à Katowice pour être en sachet, conditionné. Et ensuite, ça revient sur le marché français puisque la marque éléphant n'est vendue exclusivement qu'en France. Nous, on a fait le choix d'essayer de reconstruire ce qu'ils ont détruit. Alors, il suffit de se promener dans les régions où il y avait les productions pour se rendre compte que les tilleuls existent toujours, sauf que les feuilles ne sont plus cueillies, puisqu'il n'y a plus personne au bout de la chaîne pour acheter les produits. Donc nous, on a voulu faire la démonstration que c'était possible.
Et vous êtes venu à la fête de l'UMA avec 5 000 petites boîtes comme ça.
Voilà, avec 230 kilos qu'on a acheté à un producteur bio de la Drôme. Donc on a fait tout dans les règles de l'art. On a coupé chez dans une entreprise, elle aussi certifiée bio, et on l'a ramené dans notre entreprise qu'on a acquis par la lutte, puisque la communauté urbaine de Marseille a acheté les bâtiments et les terrains, puisqu'ils voulaient la céder et nous virer les machines de dedans, pour pas qu'on puisse porter notre projet. L'outil industriel a été cédé à l'euro symbolique par le groupe Unilever. Et aujourd'hui, il ne manque plus qu'une chose, c'est qu'Unilever assume ses responsabilités sur la première phase qui fera démarrer l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont détruit. Il faut bien nous laisser le temps de le reconstruire. Vous imaginez bien que passer aujourd'hui, on a acheté 230 kilos pour pouvoir faire 5000 de boîtes sur la fête de l'UMA. Notre projet, il repose sur un volume de production autour de 1000 tonnes en thé et en infusion. Donc on est entre 230 kilos et 1000 tonnes, il y a quand même un cap.
Alors vous allez faire une SCOP ? Elle est dans les tuyaux, la SCOP ?
Voilà, le projet, c'est de redémarrer en coopérative ouvrière. Donc le signal qu'on donne avec cette boîte, c'est pas de dire ça y est, on a réglé le problème et on sait faire sans eux, non. C'est de dire, on est en capacité de faire, on en fait la démonstration. Maintenant, il faut imposer au groupe Unilever qu'il assume ses responsabilités, qu'il nous donne les volumes de production nécessaires aux premières années pour démarrer l'activité, le temps nécessaire à reconstruire ce qu'ils ont détruit pendant des années. Voilà. C'est eux les casseurs, ça doit être eux les payeurs.
Voilà, et vous dites merci au gouvernement qui vous a soutenu, à François Hollande, à M. Montebourg, qui vous ont soutenu tout le long de votre lutte.
Surtout pendant la campagne électorale.
Il y a un petit
électorale.
Au début qui...
Surtout pendant la campagne électorale, on a eu un grand soutien.
Et
ça, on a rencontré à 5 reprises François Hollande. Alors, à aujourd'hui, on n'a pas le démenti qu'il aurait changé de position par rapport aux propos qu'il a tenus sur nous. C'est-à-dire qu'il a dit en campagne électorale, je suis à vos côtés en tant que candidat à l'élection présidentielle. Si demain je suis président, je serai toujours à vos côtés. Donc, logiquement, il est toujours à nos côtés. Bon, sauf qu'on ne le voit pas dans les actes aujourd'hui se concrétiser. Plus clair encore... Et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui, lorsqu'il est venu dans notre entreprise en septembre 2011, pendant la campagne aux primaires socialistes, sur le sujet Fralib, et on ne lui a pas mis de pistolet sur la tempe pour s'exprimer de cette manière-là, a dit clairement, le problème chez Fralib, il est simple, groupe Unilever, ils font des milliards de bénéfices, ils veulent partir, qu'ils partent. Au retour des produits sur le marché français, on taxe à 200%. Et pour la marque éléphant, on réquisitionne et on les indemnise à la hauteur ridicule qu'ils ont l'habitude d'indemniser les salariés. Bientôt, plus d'un an après, c'est toujours pas fait. Mais bon, nous, on désespère pas, on va pas baisser pavillon, on continue à mener la lutte. Et
vous êtes têtu quand même, les Fralib, hein ?
Non, on défend notre droit. Nous, on considère que la propriété de la marque éléphant, elle n'appartient pas au groupe Unilever, cette multinationale qui est venue et qui l'a dépouillée de sa substance, notamment en allant chercher les produits au fin fond du monde, alors qu'il est dans notre région. Donc nous, on veut reconstruire ce que des générations de travailleurs ont construit. Et donc, on considère que ça, c'est légitime. C'est pas être têtu, c'est légitime.
Merci en tout cas. Merci Olivier Leberquet. CGT Fralib. Alors un autre univers, Sanofi, Sanofrique. Le capitalisme nuit gravement à la santé. On avait consacré là aussi une heure de la base que j'y suis à la situation de Sanofi. C'est Thierry Baudin qui nous résume la situation, qui nous résume l'histoire, c'est possible ?
Sanofi, c'est la première entreprise pharmaceutique française et européenne. Pour résumer, c'est une entreprise qui fait 32 milliards de chiffre d'affaires. Et surtout qui dégage un résultat net qui est aux alentours entre 7 et 9 milliards par an. C'est la troisième entreprise la plus bénéficiaire du CAC 40 et la première capitalisation boursière, même devant Total. Pour résumer, ces 5 dernières années, on a perdu 4000 emplois. Donc on a perdu, c'est plutôt la direction a supprimé 4000 emplois directs, évidemment plusieurs milliers d'emplois indirects. Et cela au titre de la volonté d'augmenter et de garantir une augmentation du dividende aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie financière à court terme qui ne vise qu'à enrichir une minorité. Et puis là-dessus, eh bien, l'année dernière, en 2012, nouveau plan de restructuration annoncé dans 4 activités et tout particulièrement en recherche, avec des risques majeurs pour le site de Toulouse qui peut disparaître et l'arrêt aussi de toute activité de recherche sur Montpellier. Donc il y a eu une grosse lutte qui a été menée durant tout l'automne et même tout le début de l'année 2013. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation où on avait gagné en appel au niveau de la Cour d'appel de Paris qui avait fait casser la procédure qui était suivie par la direction concernant, en tous les cas, le plan de restructuration dans la recherche. Donc en ce moment, nous discutons, mais en même temps, on sème malheureusement qu'elle ne vise à nouveau que ce plan de disparition des activités de recherche dans Sanofi en tous les cas, sur Toulouse et Montpellier, eh bien, en même temps, il y a des mobilisations qui continuent, plus difficilement parce que, évidemment, après un an de lutte, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des mobilisations qui sont toujours sur Toulouse le mardi. Le site de Montpellier, ceux qui habitent dans la région, ils ont pu voir à quel point il avait été habillé cet été, et il y a toujours des initiatives qui sont prises par les salariés. Donc, on a eu, on va dire en juillet 2012, le gouvernement qui, comme pour nos camarades de Fralib, nous a dit...
Ils ont donné un bon coup de main.
Voilà, nous ont dit, quand on a été reçus intersyndicalement, il nous a dit face à face, si vous vous battez tous ensemble au niveau des organisations syndicales, on va se battre avec vous pour combattre le plan. Et quatre mois après, on a eu le discours inverse toujours par M. Montebourg, nous disant, bah, écoutez, maintenant, il faut voir comment vous pouvez discuter avec la direction pour voir comment on peut accompagner le plan. Mais comme on l'a dit, c'est un enjeu majeur scientifique, industriel, pour l'emploi dans notre pays, pour tous les jeunes qui cherchent du boulot, pour le devenir d'une filière qui est l'industrie pharmaceutique, car Sanofi, c'est l'entreprise majeure dans notre pays.
Voilà, merci Thierry Baudin. Sanofi, l'exemple de l'entreprise qui est passée d'une politique industrielle à une politique financière. Parmi les actionnaires, il faut citer quand même L'Oréal.
La première actionnaire de Sanofi n'est autre que Mme Bettencourt, voilà. Parce que le premier actionnaire est L'Oréal.
Qui vous remercie, Mme Bettencourt.
Qui nous remercie en mettant un nombre de salariés dehors. Voilà.
Kémoine, ex-pôle vinylique d'Arkema, même jeu, Jean-Marie Michelucci, c'est ça Kémoine. Résumé et situation.
Résumé, nous avons été vendus à un fonds d'investissement détenu par Gary Klesch, un Américain, au 1er juillet 2012. Et huit mois après, l'entreprise est en redressement judiciaire. Alors il faut dire que nous vivons un film en accéléré. Nous avons été vendus pour 1 euro le 1er juillet 2012 avec Arkema, lui a cédé 100 millions de trésorerie. Tout début juillet, sur ces 100 millions de trésorerie, 93 millions ont été transférés à Londres, alors qu'Arkema est une boîte française et que Kémoine est une boîte française dont le siège social est à Lyon. Mais toute la trésorerie est partie via des comptes HSBC sur Londres. Nous savons que 30 millions sont localisés à Jersey, bien bien loin de là où se font nos affaires. Et donc... 9 mois après, nous nous retrouvons dans une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires avec 120 millions de dettes. Il faut savoir que depuis le 1er juillet 2012, notre nouveau patron, l'Américain Gary Klesch, n'a payé aucun fournisseur, zéro cotisation sociale. Il n'a pas payé la mutuelle de ses salariés. Il est parti avec la caisse, proprement dit. Ce qui nous a conduit, nous, à déposer plainte pour faire annuler la cession. Et nous entendons faire condamner Arkema pour s'être débarrassé de 1300 salariés et grosso modo 1000 sous-traitants. Les experts, y compris le ministère de l'Industrie, estiment que si Kémoine tombe, c'est entre 13 et 20 000 emplois qui tombent. Dans les régions PACA et Rhône-Alpes, parce qu'il y a tout l'amont pétrochimique et tout l'aval plasturgie, vos fenêtres, vos volets, vos portails, vos tuyaux d'évacuation des eaux, vos tableaux de bord de bagnole. Donc on voit bien qu'on est dans une activité charnière.
Et vous avez des repreneurs.
Alors il y a deux fonds d'investissement qui se sont manifestés. Bon, les salariés, au regard de leur vécu tout récent, sont plus que réticents. Et nous, CGT, avons déposé un projet de reprise industrielle qui tient sur du bon sens. Nous avons donc déposé un dossier au tribunal de commerce. Nous sommes trois. Alors à ce jour, nous avons le regret de constater que les fonds d'investissement ont été reçus au ministère pour engager un tour de table avec les fournisseurs. À ce jour, la CGT, qui est reconnue et porteur d'un projet déposé au tribunal de commerce, à ce jour, la CGT attend toujours qu'elle soit invitée en tant que repreneur potentiel au ministère. Les deux fonds d'investissement ont été reçus et le ministère de l'Industrie ne nous a toujours pas conviés autour de la table avec Total, Arkema et EDF qui sont nos premiers fournisseurs.
Mais ils écoutent là-bas si j'y suis et cette demande va être sans doute satisfaite. Vous demandez à tous les trois la bonne nouvelle du côté des Conti. Comment vous avez vécu cette nouvelle que Xavier Mathieu appelle une amère victoire?
Certes, c'est une victoire, mais elle vient trop tard. La boîte est fermée. les salariés vont avoir des indemnités, alors que ce qu'ils voulaient, c'est un boulot. C'est pour ça que les Fralib, les Sanofi, les Camoine, nous, on ne veut pas d'argent, on veut du travail. Et le travail, on l'a, c'est le nôtre. Donc, la victoire des Conti, pour nous, elle doit permettre à faire comprendre au gouvernement qu'il ne faut pas attendre d'en arriver là pour ensuite acter par la justice que Conti s'est mal comporté. Aujourd'hui, on sait que Fralib, Sanofi, Clech se comportent mal. Il faut sanctionner de suite et aider le plus rapidement possible à la reprise d'activité.
Voilà. Merci à tous les trois, Jean-Marie Michelucci, Thierry Baudin, Olivier Le Berquier, les Nouvelles du Front.
Mais le problème, tu vois, c'est qu'il y a trop de social. Ils nous ont vendu le bout du tunnel. Monsieur Jean, ils ont même osé ton nom comme modèle.
Monsieur Jean, escoute à la canzoune, accompagne Santa, que nous écadrouille. Monsieur Jean, escoute à la canzoune,
écoute à peau, hop.
Monsieur Jean, escoute à la canzoune, accompagne Santa, que nous écadrouille. Monsieur Jean, escoute à la canzoune,
hé, accola, pas plat, hé. Ils sont tombés par terre, on les a ramassés. Pour ne partager que leur guerre, ils nous ont imploré. Au secours, sauvez-nous. Mais ils ont donné si peu pour reprendre tout.
Monsieur Jean, escoute à la canzou, à compagnie Santa, que nous aiguillons. Monsieur Jean, escoute à la canzou.
Escoute à la canzou, monsieur Jean.
Monsieur Jean, escoute à la canzou, à compagnie Santa, que nous aiguillons. Monsieur Jean, escoute à la canzou.
Ah, qu'est-ce que comme ma plat, et on les changera pas. Jamais à la carte d'aussi, ils sont toujours là. Ils nous ont vendu la fin de l'histoire. Ils nous ont vendu la fin de l'histoire. Toujours la même équipe, on les changera pas. Jamais à la Davos, ils sont encore là.
Monsieur Jean, escoute à la canzou, à compagnie Santa, que nous écadrouille. Monsieur Jean, escoute à la canzou. Monsieur Jean, escoute à la canzou, à compagnie Santa, que nous écadrouille. Monsieur Jean, escoute à la canzou.
Et qu'est-ce que cop, et pop là.
Merci, c'est les grandes bouches. Voilà qui accompagne ce numéro de Là-bas, si j'y suis, à la fête de l'humanité. Philippe Duteuil, explique-nous ce que vous faites là. On vous qualifie de chanteur engagé et festif.
Tant mieux, on prend. Ce qu'on fait là, c'est qu'on est venu faire hier soir la première d'un spectacle qui va s'appeler Jaurès, le bal républicain. voilà, qu'on a écrit autour de l'image de, et la personnalité de Jean Jaurès. Ça, c'est une des chansons du spectacle.
Okay.
Monsieur Jean, c'est une lettre de doléance de tous les gens qu'on a croisés, les Molex, les Sanofi, puisqu'on a joué avec eux, voilà, qui disent à Monsieur Jean, en occitan, Monsieur Jean, ça fait plus de 100 ans qu'ils se foutent de nous. Voilà.
Oui, dans les Molex, il y a vraiment, c'est de la chronique sociale, hein.
Molex, c'est
vous vous racontez complètement un conflit en 2 minutes 45, le conflit est raconté.
On a essayé de faire une chronique journalistique, de dire être au plus près de ce qui s'est passé. Il y avait une entreprise qui marchait très bien, qui faisait 12% de bénéfices, mais ce n'était pas assez parce qu'il fallait 15%. Et 15%, ça a suffi pour qu'on mette 280 familles dans la misère. C'est la logique de ce que nous on appelle les nouveaux barbares. C'est-à-dire les gens qui arrivent et qui viennent dans une ville à côté de Toulouse et qui après, il n'y a plus que de la dévastation, comme au Moyen-Âge.
Et vous jouez où alors? Les usines occupées, les conflits sociaux?
Pas que, partout, parce qu'on essaie d'avoir aussi une vision humaniste. On pense que si les mots séparent les gens, on a l'impression que le chant les rassemble. Donc partout où on peut aller chanter, partout où on peut faire des concerts, on y va, pas seulement que dans le cadre ni politique, ni contestataire, aussi des concerts tout simplement, mais bien évidemment, il y a toujours une base humaniste dans
ce concert. On vous a comparé, enfin, vos sources d'inspiration, c'est Bobby Lapointe, Claude Nougaro,
ouais.
Ok, ça c'est très très flatteur évidemment, oui. Cap Calloway, je vois, très 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 flatteur, mais les double six aussi. Tu veux parler un peu des double six, ça me ferait plaisir d'entendre parler un peu des double six.
Malheureusement, Mimi Perrin nous a quittés il y a un an et c'est un de mes grands regrets parce que nous on a une passion, avant tout les grandes bouches, on est un trio vocal, on adore mélanger les voix, les frotter comme ça les unes contre les autres et bien évidemment les maîtres absolus de ce petit jeu-là au niveau mondial et depuis 50 ans, c'est un groupe français pas assez connu, qui s'appelle les Double Six, qui étaient des fous furieux, qui reprenaient les chansons, les morceaux de jazz, jusqu'à reprendre les solos de Charlie Parker,
voilà.
Et en y mettre des mots dessus. Enfin, on imagine mal la performance technique.
Absolument.
Et voilà, c'était Mimi Perrin, c'était, et bien évidemment, Eddie Lewis, on le dit pas assez, Eddie Lewis était
l'organiste, le pianiste de Nougaro.
Et chanteur.
Oui, magnifique chanteur.
Magnifique chanteur, Eddie Lewis.
Et vous avez de la branche. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On vous écoute? Ou on va parler de Jaurès avec Gilles Clandard, s'il veut bien venir jusqu'à nous. Merci Philippe Duteuil.
Avec plaisir. Avec
merci
plaisir.
Beaucoup, Gilles Clandard. Gilles Clandard. Alors il y a un bouquin qui sort aujourd'hui même, signé de Charles Sylvestre. Avec de magnifiques illustrations d'Ernest Pignon-Ernest sur Jaurès, la victoire de Jaurès. On va parler de ce bouquin. Charles m'a dit, tu peux lui poser toutes les questions, il sait absolument tout. Gilles Clandard, il y a des choses quand même qui sont préoccupantes sur Jaurès. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai là, qui est voilà. Vous connaissez évidemment cette affiche du Front National. « À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. » C'est signé Jean Jaurès. Et cette affiche du Front National nous dit « Jaurès aurait voté Front National, élection européenne 2009. » Il n'y a pas que le Front National qui s'intéresse à Jaurès. Il y a également Nicolas Sarkozy qui s'intéresse beaucoup à Jaurès. Il y a un Jaurès... qui passionne, qui fascine DSK, par exemple. Enfin, Jaurès est un peu comme le cochon, quoi. C'est tout est bon, ou comme la Samaritaine, on trouve tout ce qu'on veut dans Jaurès. Comment vous vous situez? Comment vous expliquez d'abord cette polymorphie ou morphologie de Jaurès?
Oui, je vais vous rassurer, je ne me situe pas du côté du Front National ou de Nicolas Sarkozy.
Ben ça me rassure. Je m'en doutais un peu, mais...
C'est pour ça que j'ai pu réussir à venir
jusque-là. Oui.
Il est assez facile de prendre un petit morceau de citation. Hein. Fouché disait « Donnez-moi une ligne et je vous fais pendre n'importe qui
oui. ».
Donc c'est le cas même avec cette citation que vous avez d'ailleurs donnée, qui n'est pas, entre parenthèses, qui n'est pas de Jaurès.
C'est le Front National qui le dit.
Bah oui, bon, ils ne sont pas encore excellents historiens. C'est de Blanqui. Alors c'est peut-être pire, à la limite. Et Jaurès discute la phrase de Blanqui. Jaurès est patriote, c'est vrai. Mais je reste, pense que la patrie aussi est quelque chose qui évolue, et que donc la patrie est quelque chose de nécessaire et d'utile, mais qu'elle doit continuer à évoluer, à se transformer, et qu'on va vers la patrie universelle.
Gilles Canda, à des jeunes gens de 16 ans, qui pour la première fois, ou 15 ans, qui pour la première fois entendraient parler de Jaurès, qui penseraient que c'est une avenue ou une place seulement, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment vous pouvez présenter un animal pareil en quelques mots?
C'est difficile, parce qu'effectivement, c'est un continent, hein, c'est immense. Je suis très ennuyé. Moi, en général, quand je commence à parler de Jaurès, justement, je crois qu'il faut enlever le côté révérentiel, statue, avenue, etc., image pieuse. Et il faut essayer de le rendre un peu dans sa vérité, comme on vient de le faire un petit peu en chanson, de combattant, d'homme qui prend part au débat et qui est surtout un homme, je dirais, fier et libre. Moi, j'insiste toujours sur cet aspect. Jaurès, il ne permet à personne de penser à sa place. Et il dit toujours ce qu'il pense, même quand il est très impopulaire.
Clémenceau part de l'extrême gauche pour arriver là où l'on sait, c'est-à-dire la droite conservatrice nationale. Oui. Voilà. Et alors que Jaurès, lui, part un peu de l'autre bout. C'est un intellectuel, un modéré. Bourgeois, modéré, et qui, à l'occasion des grèves de 1892, les grèves des mineurs de Carmaux, va... découvrir la lutte des classes, en somme. On peut résumer comme ça, ça...
On peut résumer comme ça. C'est effectivement quelqu'un qui, faisant sérieusement ce qu'il fait, comme il est député républicain, prof, et bien effectivement, c'est vrai qu'il rencontre la société de son temps, donc, par exemple, les employés de tramway qui trouvent que la semaine de 72 heures est un peu longue.
Oui.
Et il y a aussi la très belle grève des mineurs de Carmaux pour avoir le droit d'élire leur leader syndical comme maire de la commune, ce qui choque le patron des députés. Si Jaurès évolue, c'est beaucoup par la connaissance concrète de la vie des ouvriers de son temps. Il le dit lui-même à un moment, à Normalsup, j'ai appris énormément de choses, hein. Mais évidemment, il a eu assez peu l'occasion d'entendre parler de lutte sociale, et ça, il le découvre progressivement. Ce qui est amusant, c'est qu'au début, il signe des propositions de réforme, et il ne devient socialiste que parce qu'il se rend compte que la voie de la réforme est finalement un peu bouchée, que beaucoup de ses amis sont d'accord pour signer des textes, mais après, quand il s'agit de les faire voter, il se retrouve tout seul et abandonné.
Il était croyant.
Jaurès dit, si Dieu existait, il faudrait discuter avec lui. Et en tout cas, il ne veut pas abdiquer de son intelligence. Mais c'est vrai que dans le socialisme de Jaurès, il y a un aspect religieux important, disons, dans l'idéal de fraternité et de civilisation socialiste que doit réussir à construire les militants, les socialistes et le mouvement ouvrier.
Il y a l'épisode de l'affaire Dreyfus. Dans un premier temps, Jaurès est anti-Dreyfusard. Il pense que Dreyfus est coupable,
comme tout le monde, sauf les allemanistes qui se disent, tiens, un tribunal militaire, ils doivent avoir tort. 12 officiers qui décident ensemble, ils doivent se tromper. Voilà, donc ils font ce pari-là. Tout le monde pense que Dreyfus est coupable, bien entendu. Et Jaurès ne se bat pour Dreyfus que lorsqu'il est réellement convaincu de l'innocence de Dreyfus.
Alors, on dit que c'est en lisant le fameux texte de Zola, J'accuse, dans l'Aurore, que soudain... Jaurès comprend. Est-ce que ça fonctionne, ça ?
Ça fonctionne, c'est un peu exagéré. Mais effectivement, il va prendre le relais du combat de Zola pour Dreyfus. Et même lorsque on pourrait croire que l'affaire Dreyfus est terminée sur le plan politique parce que Dreyfus est libéré, Jaurès a promis à Dreyfus qu'il le ferait réhabiliter. Jaurès tient parole alors que politiquement, au fond, il n'y a pas forcément intérêt. Mais si en 1903, c'est Jaurès qui relance l'affaire pour que Dreyfus soit réhabilité, je dirais que ça, c'est bien le côté engagement moral de Jaurès. Il l'avait promis à Dreyfus, donc il va jusqu'au bout de sa promesse.
Et alors, il y aura 110 ans l'année prochaine, il fonde un journal qui s'appelle L'Humanité. Et nous sommes ici à la fête de l'Humanité, 110 ans après. Il y a le fameux discours de 1913, le discours du Pré Saint-Gervais. On connaît tous cette magnifique image. Et puis, il y a, et c'est la raison de la publication du bouquin de Charles Sylvestre, c'est le 31 juillet 1914, ça va se célébrer l'année prochaine, l'assassinat de Jean Jaurès par un certain Raoul Villain, qui par la suite sera acquitté, et on a cet assassinat de Jaurès qui permet de comprendre comment le nationalisme est une arme contre la lutte des classes. On le verra aux États-Unis en 1917, au moment de la propagande extraordinaire pour persuader les Américains d'entrer en guerre. Et là, aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne, comme dans pas mal de pays industrialisés, on a des luttes syndicales, je vois Gérard Filogier, qui sont extrêmement vives, extrêmement violentes, et le nationalisme tombera très bien pour discréditer ces luttes et pour les inhiber.
Le grand combat
parce qu'on présente Jaurès comme un pacifiste, son pacifisme était celui-là, je pense, hein, de lutter contre ce nationalisme.
Oui, c'est un pacifisme, je dirais, politique et réfléchi. D'ailleurs, c'est un pacifiste patriote. Il a aussi écrit l'Armée nouvelle. Il a aussi réfléchi aux moyens pour la France de se défendre en cas d'agression. Ce n'est pas un pacifiste, je dirais, pour des raisons uniquement morales ou de refus de la violence ou de refus de la guerre. C'est un pacifisme parce qu'il pense effectivement que la guerre serait évidemment non seulement une infâme boucherie, mais que ça serait aussi une régression de civilisation et le moyen, disons, de bloquer le progrès social et culturel de l'Europe et de l'humanité pendant longtemps.
Gérard Filoche, un mot sur, avant qu'on redonne le micro à nos amis les grandes bouches, un mot sur Jaurès.
Sur Jaurès. Ben, on va fêter
un mot, Gérard.
Un mot. On serait pas là s'il n'avait pas existé. Voilà, on est tous tributaires. On a tous la mémoire et le combat est à portée. Je veux dire, quand on parle des retraites aujourd'hui, on lui doit tout à lui, puis à Pierre Mauroy récemment. Et les retraites sont à défendre. Merci Jaurès, merci Pierre Mauroy. C'est pas le moment de céder.
Un dernier mot.
Un aspect anecdotique qu'on ne dit jamais. Jaurès a fondé l'Humanité. Et en 1913, le congrès du parti propose une fête de l'humanité qui ne pourra pas avoir lieu avant en 1914, puisque c'est la guerre.
Ouais.
Mais la fête de l'humanité va exister à partir de 1930. Finalement, c'est cette unité de Jaurès qui s'est réalisée à partir de 1930 que cette fête de l'humanité, puisque le projet existait déjà en 1913. Voilà.
Les grandes bouches. Merci.
Mesdames, Messieurs, de nombreux témoignages nous font dire que Jaurès adorait chanter, qu'il avait une véritable voix de stentor et sa chanson favorite faisait...
Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Allez! Monsieur le baron avait promis de mettre le feu à Paris. Monsieur le baron avait promis de mettre le feu à Paris. Mais son coup a manqué car on a riposté. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Par le dernier nom. Dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris. Dans la grande ville de Paris, il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a des miséreux qui ont le ventre creux.
Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son de nos chansons. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son.
dansons la camagnole, vive le son de nos chansons. Quand le chômage augmente par-ci,
le chômage augmente par-ci,
les cours de la bourse augmentent aussi.
Les cours de la bourse augmentent aussi.
Quand le chômage augmente par-ci,
quand le chômage augmente par-ci,
les cours de la bourse augmentent aussi.
Les cours de la bourse augmentent aussi.
Mais qui sème la misère récolte de la colère. Dansons la camagnole, vive le son, vive le son. Allez.
C'est comme ça, mesdames, c'est comme ça.
Les grandes bouches à la fête de l'humanité. Merci.
Merci, merci à toutes et à tous. Merci aux Grandes Bouches et leurs chansons sociales. Merci à Gilles Candard, président de la Société d'études jaurésiennes, qui nous parlait de Jaurès, à propos du livre de Charles Sylvestre, La Victoire de Jaurès, qui vient de sortir. Merci à Olivier Leberquier de Fralib, Thierry Baudin de Sanofi et Jean-Marie Michelucci de Kémoine. Merci aussi à Gérard Filoche. Bon, on continuera demain. On a encore des choses dans notre musette. On a les Hebda qui viendront chanter Victor Jara. Et puis, on aura Monique et Michel Pinson-Charlot pour leur dernier bouquin, Les violences des riches. Et puis aussi Georges Bartoli qui viendra nous parler du Chili qu'il a photographié en long, en large et en travers. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Sur le site là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez réécouter cette émission et voir quelques photos de ce samedi. Et puis vous pouvez faire un tour aussi sur la page Facebook de l'émission à la technique, samedi à la fête de l'UMA, Eric Audra, Alexandre James et Étienne Leroy, et à la production Pascal Bresse, à la technique aujourd'hui Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhéraire, préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis, à la fête de l'humanité. Tout de suite, vous retrouvez Hervé Pochon pour Un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Petit rappel, avril 2012.
Qu'est-ce que vous disiez, monsieur ?
Je disais qu'il y a 40 ans que j'accuse la CGT de crime contre l'économie.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont foutu le bordel dans toute l'industrie française, préférant licencier, fermer les usines, licencier la totalité du personnel, plutôt que d'en conserver la moitié. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut que les syndicats soient apolitiques et non pas politisés comme ils le sont.
Et vous étiez syndiqué ?
Oh ben non, absolument pas. C'est contre ma nature.
Mais pourtant, la défense des droits des travailleurs, c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Non, je suis entièrement d'accord sur la défense des droits des travailleurs. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils ne soient pas politisés comme ils ne le sont pas en Allemagne. Il y a des syndicats qui défendent les travailleurs, je suis entièrement d'accord. Mais pas en politique, excusez-moi, c'est pour moi de travail.
Hop, et le monsieur est parti. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, vous ?
Eh bien, monsieur Lévy, syndicat CGT des hôtels de prestige économique, c'est donc nous qui avons, avec les camarades, organisé ce conflit. On prépare de longue date, puisque c'est un hôtel où on est majoritaire.
Vous dites organiser le conflit, parce que pour moi, on ne l'organise pas, le conflit.
Eh bien, justement, si. C'est une grève qu'on prépare depuis 6 mois. Et on a démarré au temps de T avec l'objectif de tenir 1,5 mois ou 2 si nécessaire. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui a été très préparé. On a voté à notre dernier congrès le principe d'une caisse de grève avec reversement aux salariés en grève à partir du deuxième jour de grève de 40 euros par jour. Donc c'est quelque chose qui est très très préparé et qui a été déclenché à un moment bien précis. C'est vraiment un conflit, je maintiens mon terme, organisé. Dans la durée, parce que s'attaquer à un groupe hôtelier comme le Louvre Hôtel, on a conscience que c'est un gros morceau, c'est le deuxième groupe hôtelier après Accor, donc on a organisé les choses pour gagner.
Mais alors vous ne travaillez pas dans l'hôtel et dans
Moi, je suis permanent au syndicat CGT-HPE, chargé des questions juridiques et militantes. Donc j'organise à la fois le conflit sur le terrain juridique parce qu'on a affaire à un groupe qui a des batteries d'avocats et qui n'arrête pas d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et sur le terrain, puisqu'on est là depuis mardi dernier, 8h30, les drapeaux, les banderoles.
Il y avait un monsieur qui n'était pas content contre la CGT, il disait que la CGT cassait l'économie française.
Oui, alors le problème c'est que là on est dans une situation où vous avez des femmes de chambre qui sont payées à la tâche comme il y a plus de 30 ans. Le travail à la tâche a été supprimé par la loi de mensualisation de 1978. Et là, on les paye à la chambre selon des cadences infernales, de 4 chambres à 4 chambres 25 à l'heure. Et si elles font par exemple 2 heures pour faire les 4 chambres, soit parce que les chambres sont très sales ou qu'il faut attendre le client, elles sont payées qu'une heure. Donc ça, c'est inadmissible au 21e siècle. Et quoi qu'en dise ce monsieur, on se battra jusqu'au bout sur ces questions-là, quoi.
Et il et elle se sont battus jusqu'au bout puisque le conflit a duré 28 jours, mais les femmes de chambre ont gagné et aujourd'hui elles ne sont plus payées à la tâche. Bonjour à tous et bienvenue devant l'hôtel Campanile Première Classe de Suresnes en ce jour de septembre 2013 où l'on fête l'intégration des femmes de ménage comme salariées de l'hôtel.
Emmanuel Gret, je suis directeur des ressources humaines pour le groupe Louvre Hôtel.
Alors comment vous avez vécu ce conflit ?
Il n'y a pas eu de conflit. Le conflit date d'il y a un an maintenant.
Parce oui, c'est ça. Contraire... Il y a quand même eu un conflit de 28 jours où, il faut préciser, des femmes de ménage étaient payées à la chambre 1,88€ pour faire le ménage dans une chambre. J'ai découvert ça, moi je trouvais ça incroyable.
Voilà, dans le cadre d'un conflit qui les opposait à leur employeur.
La société Deca France qui les embauchait. Maintenant, vous avez changé de prestataire.
Donc, on a pacifié la situation. L'idée, c'était de retrouver une sérénité. Donc, on s'est mis à discuter donc, avec la CGT en dehors de ce conflit, puisqu'on a commencé la discussion il y a quelques mois, au mois de juin, pour, au contraire, proposer l'internalisation des femmes de chambre et donc les intégrer dans nos équipes.
Mais vous étiez au courant que ce prestataire de service que vous utilisiez, qui s'appelait Deca France, payait les gens à la tâche?
À nous, on ne demande absolument pas, c'est pas quelque chose qu'on demande à notre prestataire. Au contraire, dans le contrat, nous, on commande une prestation globale. C'est à lui de s'organiser par rapport à ça.
Vous ne cherchez pas à savoir s'il ne fait pas travailler des enfants, s'il ne fait pas travailler des...
Je veux dire, là, vous exagérez quand même un petit peu. Hein, voilà, au contraire, nous, on cherche justement à l'encadrer puisque une autre partie de la négociation qu'on mène avec les syndicats, c'est justement de créer une charte sociale. Voilà, donc c'est une négociation qui est en cours avec nos syndicats sur cette charte sociale pour justement mieux encadrer le recours à la prestation.
Aujourd'hui, c'est la fête ?
Ouais, c'est la fête.
Mais vous saviez que les femmes de ménage qui travaillaient dans vos hôtels touchaient 1,82€ par chambre nettoyée ?
J'ai pas exactement les chiffres en tête, je sais pas si c'est 1,82€. Elles sont payées, elles sont mensualisées, c'est des femmes qui ont un salaire mensuel. Hein.
Oui, aujourd'hui, donc, mais avant.
L'important quand pour moi, c'est qu'elles soient payées de toutes les heures qu'elles effectuent. C'est ça qui est important, c'est la législation du travail française. C'est l'objet de toutes les dispositions que nous prenons vis-à-vis d'elles et de nos prestataires pour que ça se passe.
Qu'est-ce qui vous incite ?
Bonjour Claude, ça
oui,
va,
ça va. Alors c'est la responsable des DRH qui salue le représentant de la CGT.
Ben oui, nous on n'est pas des chiens, on est des humains aussi. Je veux dire, on a des gens composés normalement devant nous, donc on discute avec eux, on négocie avec eux, on arrive à des accords avec eux et on popularise l'accord qu'on a pu obtenir parce que nous on estime que dans la profession c'est quand même un plus d'avoir la responsabilité sociale qu'a pris l'ouvre-hôtel de décider effectivement d'intégrer ces femmes de chambre et ces gouvernantes dans les effectifs de l'hôtel. Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
On se retrouve demain.
Vous voulez vous aussi bénéficier des avantages du premier réseau social d'assurance ?
Zéro tracas, zéro blabla.
Pour fêter votre arrivée
et pour toute nouvelle souscription d'une assurance santé MMA jusqu'au 2 novembre 2013,
MMA vous offre jusqu'à 200€ sur votre première année de cotisation. Alors, c'est qui les nouveaux clients ?
C'est nous !
Zéro tracas, zéro blabla, MMA.
Conditions sur MMA.fr.
La vida empieza otra vez.
France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds du 18 au 26 octobre au Dock des Suds à Marseille. Une 22e édition exceptionnelle pour montrer que les musiques sont capitales. 4 soirées, une fiesta des minots, des expos, 45 concerts. IAM, Africa Express avec Rachid Taha, M, Damon Albarn, Tony Allen et Bonnie Bones, Kassav, Avishai Cohen, Fefe, Ben L'Oncle Soul and Monophonics, Chinese Man Records. Renseignements sur franceinter.fr.
Bienvenue au Havre pour la chronique Écho du jour où nous observons des mouvements inattendus. Les valeurs philanthropiques font ce jour un bond insolite. L'altruisme remonte et la préoccupation pour la santé mondiale passe la barre record des 6000 points. Un coup dur pour la course au profit individuel.
L'économie change. Changeons l'économie. France Inter, partenaire de la seconde édition du LH Forum. Rendez-vous au Havre du 25 au 27 septembre et découvrez les projets incroyables d'intervenants du monde entier. Une initiative du groupe Planète Finance. Retrouvez le LH Forum dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Les inspecteurs de l'ONU confirment ce que les Occidentaux... C'est toujours France Inter et c'est toujours moi qui parle. Voilà, les inspecteurs de l'ONU confirment ce que les Occidentaux, la France en tête, disent depuis fin août. Dans son rapport publié aujourd'hui sur l'attaque de la Ghouta, les inspecteurs parlent de preuves flagrantes d'utilisation de sarin, un gaz hautement toxique. La première page du rapport dit aussi que des armes chimiques ont été utilisées sur une échelle relativement grande au cours du conflit syrien. On apprend d'ailleurs aujourd'hui que la commission d'enquête de l'ONU enquête sur 14 autres attaques chimiques commises depuis septembre 2011. Trois coups de feu ont été tirés dans un immeuble début bureau de la marine américaine à Washington aujourd'hui. 3000 personnes y travaillent. Il y aurait au moins 4 victimes. Le Washington Post affirme sur son site internet que ces victimes sont dans un état critique. Le journaliste tunisien incarcéré vendredi a été libéré aujourd'hui à Tunis. Il avait été emprisonné pour avoir accusé un procureur de falsifier des preuves contre un caméraman afin de l'impliquer dans une affaire de G2 sur un ministre au mois d'août dernier. Cette incarcération avait déclenché une levée de boucliers. Des centaines de personnes ont manifesté en soutien à Tunis. D'ailleurs, les médias tunisiens ne vont pas s'arrêter là. Ils ont prévu de faire grève demain pour dénoncer les pressions du gouvernement tunisien dirigé par les islamistes. La direction d'Air France fera un point d'étape mercredi sur son plan de restructuration. Elle dressera aussi le bilan des bases de province. Pour l'instant, la compagnie aérienne ne fait pas de commentaires sur les informations parues dans les Échos ce matin. D'après le quotidien, le plan de restructuration pourrait concerner non pas 2500 suppressions de postes l'an prochain, mais entre 2600 et 3000. Les syndicats redoutent même que ce chiffre soit supérieur. Chez Lufthansa, en pleine restructuration également, c'est le patron qui part. Christophe Franz va rejoindre les laboratoires pharmaceutiques suisses Roche. La direction de la compagnie aérienne allemande promet aujourd'hui que sa succession se fera sous le signe de la continuité. Des syndicats d'enseignants appellent à faire grève jeudi dans les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Ils ont prévu même de manifester dans les rues de Paris. Ils réclament un système éducatif de qualité avec des remplaçants en nombre suffisant, des classes moins chargées et davantage de formation. Il devait être jugé aujourd'hui pour des violences sur des policiers lors d'une manifestation devant le siège de Goodyear à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Finalement, le tribunal correctionnel de Nanterre a décidé aujourd'hui de repousser à février prochain le procès de 4 salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord. Il a entendu le tribunal correctionnel de Nanterre la demande de l'un des avocats des salariés qui réclame du temps pour trouver notamment des témoins supplémentaires. 10 000 euros d'amende pour Xavier Dore, cette figure du militantisme anti-avortement a été condamnée aujourd'hui pour s'être introduit à deux reprises dans les locaux du planning familial de Paris en juin 2012. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement cet après-midi. Âgé de 84 ans, Xavier Dore a décidé de faire appel et il a affirmé sa détermination à poursuivre ses actions en dépit de ses multiples condamnations. Enfin, le parquet polonais lui étudie aujourd'hui la façon dont il peut extrader rapidement Fabrice Atamaten, ce franco-suisse violeur récidiviste. Est soupçonné d'avoir tué une thérapeute en Suisse. Il a été arrêté hier en Pologne après 4 jours de cavale. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les soirs, à partir de 21h,
rock, pop, électro, R&B,
les soirées musicales d'Inter.
Hip-hop, garage, grime, metal, bass music, new wave.
Du lundi au jeudi,
cosmique fantasy.
Retrouvez Barbara Carlotti.
Un voyage cosmique dans l'hyperespace de la musique.
New wave, no wave, chill wave.
À 22h, Aurélie Sfez.
Avec vous, Baptiste Etchegaray.
Et oui,
techno. Des comédiens qui chuchotent à l'oreille des musiciens.
House.
Des artistes qui font l'amour avec des artistes.
Ghetto house.
Parce qu'on est ouvert la nuit.
Grunge, black metal, Norwegian metal.
À 23h15,
on n'oublie pas, hein, là.
Laura Lichman.
Du nouveau de tous les styles, tous les genres, tous les styles, tous les genres, tous les styles.
Et 2 heures d'addiction le vendredi à 21h.
La mauvaise habitude du vendredi soir.
Avec Laurence Pierre.
Prenez de l'altitude et bon voyage.
Retrouvez les soirées musicales d'Inter.
Les programmes.
Les rendez-vous.
Sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, c'est à vous Frédéric Lodéon.
Eh oui,
Lodéon, c'est à vous.
Content de vous retrouver Laetitia Gaillet. Eh bien, rendez-vous à 17h pour un nouveau flash.
À tout à l'heure.
Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors quand l'opéra s'allie avec le cinéma, ça donne quelque chose de très passionnant, de très moderne. On s'appuie sur un art ancien déjà, mais qui peut être propagé sur la terre entière grâce au cinéma. Mais ça commence par exemple demain avec le Royal Opera House, Covent Garden de Londres. Donc demain mardi 17 septembre à 20h15 avec Turandot de Puccini. Et on peut voir ça au cinéma. Donc tout simplement, il faut réserver, et on peut s'informer aussi sur le site que voici, AQU Antique, c'est-à-dire, je vais épeler, c'est plus facile, AQUENTIC, AQU Antique, mais vous pouvez regarder évidemment sur le site de Carrefour de l'Odéon en faisant franceinter.fr. Et là, il y a une liste invraisemblable de cinémas très différents. Ce n'est pas une chaîne littéralement, puisque à Oyonnax, il y a le centre culturel Aragon, place Georges Pompidou, à Nantua, le cinéma Le Club, à Lens, le Forum, à Soissons, le Clovis, etc., Manosque, Lido, Château Arnoux, le cinématographe. Enfin, je ne peux pas dire tout, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment extraordinaire de savoir qu'on pourra entendre ce Turandot absolument superbe, j'en suis certain, demain à 20h15 dans plein d'endroits et les places sont généralement tout à fait accessibles. Mais voici le fameux air de Turandot, Nessun Dorma, c'est Calaf qui a laissé une chance à la difficile princesse Turandot qui ne veut pas se marier. Alors il lui a dit, écoute, j'ai gagné, voilà, il y avait un concours très dangereux parce que s'il ne trouvait pas les énigmes, il était raccourci comme pas mal d'autres princes avant lui, on lui coupe la tête tout simplement. Alors il lui a laissé une chance quand même, parce que si elle résiste tant, c'est peut-être parce qu'elle connaît pas l'amour et puis qu'elle a eu quelques échos des hommes autrefois un peu compliqués. Si tu trouves mon nom avant l'aube, eh bien je serai comme les autres exécuté et tu ne te marieras pas. Alors elle lance l'ordre que personne ne dorme. Alors lui il reprend ce mot, calaf, nul ne dort, personne ne dort. Toi aussi, ô princesse, dans la froideur de ta chambre, tu regardes les étoiles qui tremblent d'amour et d'espérance. Mais mon mystère est caché en moi. Mon nom, nul ne le saura, non, non. Et il va arriver à ses fins et c'est... tout proche de la princesse en l'embrassant, qui va lui dire, tu sais, mon nom, c'est Amour.